Chapitre 38. Quand j'étais petit et que j'écoutais la ronde sans fin des poésies récitées par grand dame, il y en avait une, très courte, que je demandais à écouter et à réécouter sans cesse. Elle commençait ainsi. Au dire de certains, le monde périra par le feu, pour d'autres, par la glace. Grand dame ignorait le nom du poète. Elle pensait qu'il pouvait s'agir d'un pré-égyrien nommé Frost. Mais, même à l'âge que j'avais, je me disais que c'était trop beau pour être vrai. Quoi qu'il en soit, l'idée que le monde pourrait finir en feu ou en glace m'a longtemps hanté, aussi envoûtante que le rythme chantant de ce très simple poème. Mon monde à moi semblait s'achever en glace. Il faisait complètement noir sous la muraille gelée. Quant au froid, je ne trouve pas de mots adéquats pour le décrire. J'avais déjà été exposé à des flammes. Un jour, une cuisinière à gaz avait explosé sur une barge qui remontait le fleuve Canse, et j'avais été brûlé superficiellement, mais très douloureusement, au bras et sur le torse. Je connaissais donc l'intensité d'un brasier. Le froid que j'endurais à présent me semblait tout aussi intense, comme si des flammes au ralenti découpaient ma chair en lambeaux. La corde était passée sous mes bras. Et le puissant courant me faisait si bien tournoyer que je me retrouvais lancé les pieds en avant sur une sorte de toboggan noir, les mains levées pour me protéger le visage des aspérités qui pendaient de la voûte de glace dure comme de la pierre. La corde serrée me rentrait douloureusement dans les chairs, tandis que Abétique m'assurait en me donnant progressivement du mou. J'eus bientôt les genoux en sang à force d'être traîné contre la glace coupante comme une lame de rasoir. J'étais projeté de plus en plus haut par le courant et j'avais l'impression, chaque fois que je cognais la voûte, d'être traîné à plat ventre sur une surface rocailleuse. J'avais mis des chaussettes plus pour me protéger de la glace que du froid, mais elles faisaient peu pour épargner mes pieds. Quant à mon slip et à mon tricot de peau, ils ne servaient à rien contre les aiguilles de froid qui me transperçaient. Autour du cou, j'avais la sangle de mon unité com, avec les pastilles micro-adhésives collées à ma gorge pour transmettre mes messages vocaux ou subvocaux. Le bouchon d'oreille était en place. Sur mes épaules, fixées avec de la bande adhésive, il y avait le sac étanche contenant le plastique, le détonateur, le cordon et deux fusées éclairantes que j'avais prises au dernier moment. J'avais attaché à mon poignet ma petite lampe de poche laser, dont les trois faisceaux trouaient les eaux noires et se réfléchissaient sur la glace en fournissant très peu d'éclairage. Je l'avais économisé le plus possible depuis mon équipée dans le labyrinthe d'Hyperion. Les lanternes et projecteurs dont nous disposions étaient plus efficaces en faisceau large et consommaient moins d'énergie. Le laser était pratiquement inutile en tant qu'arme tranchante, mais il me servirait à perforer la glace pour y glisser le plastique. Si je survivais assez longtemps pour perforer quoi que ce soit. La seule démarche méthodique, derrière ma folie consistant à me laisser entraîner par cette rivière souterraine, découlait des connaissances que j'avais acquises dans la garde nationale sur le plateau de glace du continent Ursus. Là, sur la mer de glace de la patte de l'ours, où la banquise fondait et se reformait presque quotidiennement durant la durée du bref été antarctique, le risque de passer à travers la fine couche solide de la surface était toujours très grand. À l'entraînement, on nous disait que même si le courant nous entraînait sous des couches plus épaisses, il y avait toujours une fine poche d'air entre la mer et la voûte de glace. La meilleure chose à faire était donc de remonter à la surface et de mettre le nez dans cette poche, même si le reste de notre tête devait demeurer immergé, puis de nous déplacer sous la glace jusqu'à ce qu'elle soit assez fine pour casser. Cela, c'était la théorie. Ma seule vérification pratique, je l'avais faite en tant que membre d'une équipe de sauvetage à la recherche d'un chauffeur de scarabée qui était descendu de son blindé pour faire quelques pas et avait percé la glace à moins de 2 mètres du véhicule de 4 tonnes pour disparaître sous l'eau. C'est moi qui l'avais retrouvé, à près de 600 mètres du scarabée et de la couche solide. Il avait utilisé la technique respiratoire. Son nez était toujours collé à la glace trop épaisse lorsque je le retrouvais, mais sa bouche était ouverte sous l'eau. Son visage était aussi blanc que la neige qui soufflait sur le plateau, et ses yeux gelés étaient aussi durs que des billes de roulement en acier. Je m'efforçais de ne plus penser à lui en luttant contre le courant pour remonter à la surface. Puis je tirais sur la corde pour indiquer à Abétique qu'il devait me freiner et coller mon visage à la glace pour y trouver de l'air. Il y avait effectivement une poche de plusieurs centimètres entre l'eau et la glace, et encore plus là où les fissures grimpaient dans le glacier d'atmosphère congelée, comme des crevasses à l'envers. J'emplis mes poumons d'air froid et balayai du rayon de ma torche la voûte étroite au-dessus de moi.
« Je me repose une minute, »
haletai-je.
« Je vais bien pour l'instant. J'ai parcouru combien de mètres ?»«
8 environ, » murmura la voix de l'androïde à mon oreille.
« Merde !»
grommelai-je. J'oubliais que le communicateur transmettait mes commentaires en subvocal. J'avais eu l'impression de faire au moins 20 ou 30 mètres.
« Tant pis !»
déclarai-je tout haut.
« Je vais poser ma première charge ici. »
Mes doigts avaient encore assez de flexibilité pour régler la torche laser au maximum et pratiquer une petite cavité sur le côté de la fissure. J'avais déjà préparé le plastique. Je le pétris de nouveau pour lui donner la forme voulue et l'orientai. C'était un explosif à charge creuse, c'est-à-dire que l'explosion se produirait exactement dans la direction que je déterminerais. Le tout était de ne pas me tromper. En l'occurrence, j'avais fait la moitié du travail à l'avance, sachant que la poussée devait s'exercer vers le haut et vers l'arrière, en direction du mur de glace qui se trouvait derrière moi. Il ne me restait plus qu'à orienter les ramifications précises de la force explosive. C'était la même technologie qui permettait à un projectile de plasma de pénétrer une plaque d'acier comme du beurre. Elle infiltrerait ses tentacules d'énergie dans la masse incroyable de glace qui s'étendait derrière moi et réduirait le tronçon de 8 mètres en petits morceaux qui seraient emportés par le courant. Nous comptions aussi sur le fait que les générateurs d'atmosphère, durant les années de terraformation, avaient ajouté suffisamment d'azote et de gaz carbonique à l'atmosphère pour empêcher l'explosion de se transformer en un immense brasier d'oxygène. Dans la mesure où je savais exactement dans quelle direction je devais orienter le souffle, le creusage des charges me demanda moins de 45 secondes et très peu de dextérité. Je tremblais cependant de tous mes membres, et mes doigts ne sentaient presque plus rien. Lorsque les détonateurs furent en place, comme je savais maintenant que les unités COM n'avaient aucun mal à percer la couche de glace, je les réglais sur le code déterminé à l'avance et n'utilisais pas le cordon que j'avais dans mon sac.
« C'est bon !»
haletai-je avant de me laisser de nouveau aller dans l'eau froide.
« Vous pouvez me donner du mou !»
Le courant m'emporta aussitôt dans les ténèbres. Je me cognai plusieurs fois à la voûte, avant de remonter pour happer une goulée d'air, murmurer quelques mots malgré mes lèvres gourdes, et lutter pour continuer à travailler et à y voir quelque chose tandis que mes dernières réserves de chaleur me quittaient. La glace continuait sur une trentaine de mètres, à la limite de ce que je pensais être la portée du plastique. Je plaçais des charges en deux autres endroits, une fissure naturelle et une cavité que je creusais avec mon laser dans la masse compacte de la voûte. J'avais à présent les mains complètement insensibles, comme si je portais d'épaisses mitaines de glace. Mais je pus orienter les charges vers l'aval et vers l'amont avec des vecteurs à peu près corrects. Abétique et moi, nous avions prévu de nous frayer un chemin à travers la glace avec la hache, mais nous ne pouvions pas progresser ainsi sur de très nombreux mètres. À 41 mètres, j'émergeais à l'air libre. Je craignais au début qu'il ne s'agisse d'une nouvelle crevasse, mais ma torche me permit de constater que c'était une galerie plus longue et plus large que celle où j'avais quitté le radeau. Nous discutâmes de ce qu'il convenait de faire et décidâmes que je ne ferais pas sauter les explosifs si je voyais qu'il s'agissait d'une grotte fermée. Cependant, j'eus beau balayer du rayon de ma torche l'eau noire et les stalactites de glace qui la surplombaient sur une largeur de 30 mètres environ, je ne vis pas d'obstacle. La rivière semblait continuer sur plusieurs centaines de mètres avant de se perdre à un tournant. Il n'y avait toujours pas de rive ni de galerie visible, comme dans le tronçon que nous avions parcouru jusqu'à la caverne, mais au moins, la rivière semblait suivre son cours beaucoup plus loin. J'aurais voulu savoir ce qu'il y avait au-delà du tournant, mais je n'avais ni la longueur de corde, ni la chaleur corporelle nécessaire pour me laisser flotter jusque là-bas, décrire ce que je voyais et retourner vivant au radeau.
« Ramenez-moi !»
haletai-je. Durant les 2 minutes qui suivirent, j'essayais de tenir le coup. Je ne pouvais plus me servir de mes mains. L'androïde me tirait contre le terrible courant, en s'arrêtant de temps à autre pour que je puisse me laisser flotter sur le dos et respirer l'air glacé des crevasses. Puis la folle course reprenait dans le noir. si Abétique avait été dans l'eau et si c'était moi qui l'avais tiré, ou si j'avais tiré Aîné, je n'aurais jamais eu assez de force pour lutter contre ce courant, même en mettant 4 fois plus de temps que l'androïde. Je savais qu'il était fort, sans être un Superman et sans avoir des capacités miraculeuses, mais il fit preuve, ce jour-là, d'une force véritablement surhumaine. Je me demandais à quel réservoir d'énergie il puisait pour me ramener si rapidement. Je coopérais de mon mieux, en battant des jambes, en m'aidant des aspérités de la voûte et en évitant les stalactites. Lorsque j'émergeais dans la caverne et aperçus le halo de la lanterne et les silhouettes de mes 2 compagnons penchés sur l'eau, je n'eus même pas la force de lever les bras pour les aider à me hisser sur le radeau. Abétique m'empoigna délicatement aux aisselles et me tira hors de l'eau. Aîné me prit par les jambes. Ils me transportèrent à l'arrière. Dans mon cerveau engourdi, défilaient des images de la petite église catholique où nous nous arrêtions de temps à autre dans le village au nord de la zone marécageuse de l'Atmos, lorsque j'étais berger, pour acheter notre nourriture et les fournitures élémentaires dont nous avions besoin. Il y avait un grand tableau religieux sur le mur sud de cette église, représentant le Christ lors de sa descente de croix, les bras soutenus par l'un de ses disciples, ses pieds nus et mutilés entre les mains de la Vierge.
« Tu te flattes un peu trop, non ?»
Sans que je le veuille, cette pensée avait traversé mes brumes mentales avec la voix d'Aîné. Ils me couchèrent sous la tente rigidifiée par le givre, où la couverture isotherme attendait déjà, posée sur l'épaisseur de 2 sacs de couchage et d'un fin matelas. Le cube de chauffage rougeoyait à côté de ce nid douillet. Abétique m'enleva mon tricot mouillé et me débarrassa du sac et de l'unité-com. Il défit l'adhésif de la torche laser et remit celle-ci dans le sac sans trop le secouer. Puis il me fit entrer dans le sac de couchage du dessus, avec la couverture isotherme autour de moi, et ouvrit un Medipack. Il colla des pastilles de biocapteur sur ma poitrine, l'intérieur de mes cuisses, mon poignet gauche et mes tempes, lut un instant les résultats, puis m'injecta une ampoule d'adrénonitrotaline, comme prévu. « Vous devez en avoir marre de me sortir de l'eau, » voulais-je leur dire, mais mes mâchoires, ma langue et mon appareil vocal refusaient de coopérer. J'avais tellement froid que je ne pouvais même plus trembler. La conscience n'était plus pour moi qu'un mince filet qui me reliait encore à la lumière, fluctuant sous l'effet du vent glacé qui soufflait en moi. Abétique se pencha pour me demander « Achandimion, les charges sont prêtes ?» Je réussis à hocher la tête. C'était tout ce que j'étais capable de faire et j'avais l'impression de manipuler une marionnette rétive. Aînée s'agenouilla à côté de moi.
« Je m'en occupe, » dit-elle à l'androïde. « Tâchez de nous sortir de là. »
Abétique quitta la tente et commença à pousser le radeau avec la perche pour l'écarter de la paroi de glace et nous faire remonter le courant en prenant appui sur le fond. Après la dépense d'énergie qu'il avait dû fournir pour me ramener à contre-courant, je n'arrivais pas à croire qu'il eût encore la force de pousser le radeau jusqu'à une distance suffisante de la paroi. Nous commençâmes à bouger. À travers l'ouverture triangulaire de la tente, je vis les reflets de la lanterne dans la brume et contre la voûte éloignée. Les stalactites se déplaçaient lentement dans mon triangle de référence, comme si j'entrevoyais, à travers une ouverture isocèle, une partie de la réalité du 9e cercle de l'enfer de Dante. Aîné était en train de surveiller les moniteurs simplifiés du Medipack.
Roll, roll,
murmura-t-elle. La couverture isotherme retenait toute la chaleur que je produisais, mais j'avais l'impression de n'en produire aucune. Mes os étaient meurtris par le froid, mais mes nerfs ne me communiquaient aucune sensation de douleur. J'avais très sommeil. Aîné me secoua.
« Reste avec moi, Roll, je t'en supplie !»«
J'essaie, » voulus-je lui dire par la pensée, mais je savais que c'était un mensonge. Je n'avais envie que d'une chose, dormir.
« Abétique !»
appela l'enfant. J'eus vaguement conscience de l'arrivée de l'androïde sous la tente. Il dut consulter le Medipack et tint avec Aîné un conciliabule dont je n'entendis que de vagues échos sans signification pour moi. J'étais loin, très loin, lorsque je sentis une présence contre moi. Abétique était retourné propulser notre radeau chargé de glace à contre-courant. Aînée s'était glissée avec moi dans le sac de couchage. Au début, la chaleur de son petit corps osseux ne pénétra pas jusqu'à moi à travers les couches gelées dont j'étais maintenant entouré. Mais j'avais conscience de son haleine et du contact anguleux de ses coudes et de ses genoux contre mon corps dans l'espace exigu où nous étions. « Non, non, » pensais-je à son adresse. « C'est moi le protecteur ici. C'est moi qui étais engagé pour te sauver. » Le sommeil glacé qui pesait sur moi ne m'autorisait pas à formuler ses pensées à haute voix. Je ne me souviens pas si elle passa ses bras autour de moi. Tout ce que je sais, c'est que je n'avais pas plus de réaction qu'une souche gelée, et pas plus de réceptivité que l'une des stalactites de glace qui se déplaçait dans mon champ de vision triangulaire, éclairée par la lueur rougeâtre de la lanterne et tout aussi perdue dans les sommets noirs et flous de la voûte que l'était mon esprit. Finalement, je sentis passer un peu de la chaleur de son petit corps. La sensation était extrêmement faible, mais elle s'accompagnait de 1000 petites aiguilles de douleur tandis qu'un peu de la température de son corps se communiquait au mien. Si j'avais pu parler, je lui aurais demandé de s'écarter pour me laisser dormir d'un sommeil insensible. Quelque temps plus tard, je ne saurais dire si c'est 10 minutes ou 2 heures, Abétique revint sous la tente. J'étais suffisamment conscient pour me rendre compte qu'il avait dû suivre notre plan à la lettre, ancrer le radeau en coinçant les perches quelque part dans la partie plus étroite de la caverne, sous la partie visible du portail d'Istrance. Nous espérions que l'arche de métal nous protégerait d'une éventuelle avalanche de glace lorsque l'explosion aurait lieu. « Allez-y, faites sauter les charges », avais-je envie de lui dire. Mais au lieu d'envoyer le signal codé sur le communicateur, l'androïde se défit d'une partie de ses vêtements et se glissa en caleçon jaune et bras de chemise sous la couverture isotherme avec la fillette et moi-même. La scène aurait été comique en d'autres circonstances. Vous avez peut-être tout de même envie de rire en lisant ces lignes. Mais rien ne m'a jamais touché dans ma vie aussi profondément que cet acte de partage de chaleur humaine venant de mes deux compagnons. Même mon courageux et téméraire sauvetage dans la mer Violette ne m'avait pas aussi profondément ému. Nous étions là, blottis tous les trois l'un contre l'autre, aîné sur ma gauche, son petit bras autour de mon cou, Abétique sur ma droite, le corps en chien de fusil pour lutter contre le froid qui s'introduisait par le coin de la couverture isotherme. Encore quelques minutes, et j'allais pouvoir pleurer sous la douleur de la circulation en train de revenir, sous la douleur du dégel de la chair. Pour le moment, cependant, c'était le don intime de la chaleur des corps, le don précieux irradiant de l'enfant et de l'homme bleu pour me redonner vie, qui me faisait pleurer. Aujourd'hui, en racontant ces faits, j'en pleure encore. Je suis incapable de dire combien de temps nous restâmes ainsi. Je ne l'ai jamais demandé aux deux autres, et ils ne m'en ont jamais reparlé. Sans doute 1 heure au moins. Mais cela me sembla durer toute une vie de chaleur, de douleur et de joie écrasante à l'idée du retour progressif de ma vitalité. Finalement, je me mis à trembler, puis à frissonner tout doucement, puis à trembler de nouveau très fort, comme si j'étais saisi par des crises d'hystérie. Mes amis me maintenaient sous la couverture afin qu'aucune calorie ne m'échappe. Je crois qu'Aînée, à ce stade, pleurait aussi, bien que je ne lui ai jamais demandé non plus par la suite. Lorsque la douleur et les tremblements s'apaisèrent en partie, Abétique se glissa hors du sac de couchage commun, et s'adressa à la fillette en un langage que je ne compris encore pas. « Tout dans le vert, » murmura-t-il. « Aucune gelure permanente, aucun dommage irréversible. » Peu de temps après, Aînée quitta à son tour le sac de couchage et m'aida à m'asseoir en me calant la tête et le dos avec 2 paquetages couverts d'une épaisse couche de givre. Elle mit de l'eau à bouillir sur le cube de chauffage, remplit 2 gobelets de liquide fumant et en porta 1 à mes lèvres. Je pouvais remuer les mains et même plier les doigts, mais la douleur était telle que j'étais incapable de saisir le moindre objet. « Achandimion, » me dit l'androïde en passant la tête dans l'ouverture de la tente. « Je suis prêt à envoyer le signal au détonateur. » Je hochai la tête. « Il y aura peut-être une avalanche, » ajouta-t-il. Je hochai de nouveau la tête. Nous avions envisagé tous les risques. Les charges creuses étaient calculées pour n'ébranler que la paroi qui nous bloquait le passage, Mais il y aurait peut-être des vibrations sismiques qui feraient écrouler le glacier tout entier autour de nous et qui transformeraient pour nous cette caverne en tombeau éternel. Nous avions décidé que le risque valait la peine d'être couru. Je fis du regard le tour de la tente ourlée de givre et souris à la pensée que la micro-toile nous donnait un futile sentiment de sécurité. Je hochai la tête une troisième fois et lui fis signe qu'il pouvait y aller. Le bruit de l'explosion fut moins fort que ce à quoi je m'attendais, beaucoup plus étouffé que le grondement des blocs de glace et des stalactites qui dégringolaient dans la rivière ou que la crue soudaine de cette dernière. Un instant, j'eus l'impression que nous allions être soulevés et écrasés contre la voûte de la caverne, tandis que de formidables vagues créées par la pression et le volume de la glace déferlaient l'une après l'autre sous le radeau. Nous nous serrâmes autour de notre petit foyer de pierre, en essayant de nous abriter de l'eau glacée, ancrés à nos rondins en folie comme les passagers d'un minuscule canot de survie ballotté par une puissante tempête. Finalement, les vagues de fond et le grondement se calmèrent. Les violentes secousses avaient brisé notre godille et emporté l'une de nos perches. Elles nous avaient délogés de notre abri relatif et nous étions de nouveau emportés par le courant en direction du mur de glace. Ou plutôt, de l'endroit où le mur de glace s'était trouvé. Les charges avaient fait leur office comme nous l'espérions. Elles avaient creusé une grotte à la voûte basse et déchiquetée, mais nous nous assurâmes, à l'aide de la torche laser, que la rivière semblait continuer à perte de vue. Aîné poussa un hourra. Abétig me donna des tapes dans le dos. À ma grande confusion, je dois avouer que je crois bien avoir versé alors quelques nouvelles larmes. La victoire ne fut pas aussi facile qu'elle le semblait. Des blocs et des colonnes de glace bloquaient encore une partie du chemin. Même après le ralentissement du mouvement des glaces charriées par le courant, nous dûmes lutter dur avec notre unique perche et faire de fréquentes pauses tandis que Abétig s'attaquait aux obstacles avec la hache. Au bout de 30 minutes, je m'avançais en titubant jusqu'à l'entrée de la tente et fis signe à l'androïde que c'était mon tour de manier l'outil.
« Vous êtes sûr de pouvoir le faire, Achandimion ?»
me demanda l'homme bleu.
« Absolument sûr »
articulai-je soigneusement, malgré la résistance de mes mâchoires et de ma langue encore figée par le froid. Le travail à la hache me réchauffa très vite au point que mes derniers tremblements disparurent. J'avais des douleurs partout, aux endroits où j'avais cogné la voûte, mais je décidai d'en faire abstraction pour le moment. Finalement, nous réussîmes à dépasser les derniers blocs de glace. La voie était libre. Nous restâmes quelque temps à l'avant, à battre nos mitaines pour nous réchauffer. Puis nous nous retirâmes sous la tente, autour du cube de chauffage, et nous nous contentâmes de faire jouer les rayons de nos projecteurs de part et d'autre de la rivière qui nous emportait. Le nouveau paysage était à peu près identique à l'ancien. Il y avait des parois verticales de chaque côté, avec des stalactites qui menaçaient à chaque instant de tomber sur nous ou dans les eaux noires et bouillonnantes.
« Il n'y aura peut-être pas d'autres obstacles jusqu'à la deuxième arche »,
nous dit Aîné, son haleine se figeant dans l'air devant elle comme une promesse tangible. Nous nous levâmes lorsque le radeau arriva au tournant encombré par les glaces. Il y eut quelques instants de confusion durant lesquels Abétig se servit de la perche et moi des restes de la godille, pour éviter de nous écraser contre la rive côté bâbord. Nous nous retrouvâmes rapidement au milieu du courant et reprîmes de la vitesse.
Ah !
Fit soudain Aîné qui se tenait à l'avant du radeau. Son exclamation se passait d'autres commentaires. Une 60aine de mètres plus loin, la rivière se rétrécissait et il y avait un deuxième mur de glace. Ce fut Aîné qui eut l'idée d'envoyer le bracelet comme en reconnaissance.
« Il a un microcapteur vidéo !»
nous fit-elle remarquer.
« Mais nous n'avons pas de moniteur, »
objectai-je,
« et il ne peut pas envoyer de signaux vidéo au vaisseau. »
Elle secoua la tête.
« C'est vrai, mais il peut nous décrire ce qu'il voit ?»«
Peut-être, » murmurai-je en hochant la tête.
« Le tout est de savoir s'il est assez intelligent, coupé de l'IA du vaisseau, pour comprendre ce qu'il voit. »
Pourquoi ne pas lui poser directement la question ?
Demanda Abétig qui avait sorti le bracelet de mon paquetage. Nous le réactivâmes pour lui demander ce qu'il en était. Il nous assura, par la voix presque arrogante du vaisseau, qu'il était tout à fait apte à traiter des données visuelles et à nous faire part des résultats de son analyse par le truchement du communicateur. Il nous affirma aussi que, bien qu'il ne soit pas conçu pour flotter ou nager, il était parfaitement étanche. Aîné se servit de la torche laser pour découper une rondelle à l'extrémité de l'un des troncs du radeau. Avec des clous et des anneaux à pivot, elle fixa solidement le bracelet dessus, puis ajouta un piton pour y passer la corde, qu'elle attacha en faisant deux demi-clés.
On aurait dû utiliser ce système la première fois, déclarai-je.
Elle sourit. Son chapeau était recouvert de givre et de véritables stalactites pendaient à son bord étroit.
Je crois que le bracelet aurait eu un peu de mal à placer les charges, me dit-elle.
Je compris, à sa voix, à quel point elle était exténuée.
Bonne chance,
souhaitai-je, stupidement, au bracelet lorsque nous le lâchâmes dans le courant. Il eut la bonne grâce de ne pas me répondre. Il disparut immédiatement sous la muraille de glace. Nous déplaçâmes le cube de chauffage à l'avant du radeau pour nous grouper autour de lui, tandis que l'androïde laissait filer la corde. J'augmentai le volume des haut-parleurs de l'Unitécom et nous demeurâmes silencieux tandis que le bracelet commençait à nous décrire ce qu'il voyait. 10 mètres. Crevasse dans la voûte, mais pas plus large que 6 centimètres. La glace ne finit pas. 20 mètres. La glace continue. 50 mètres. Toujours de la glace. 70 mètres. Aucune issue en vue. 100 mètres. Encore de la glace. Le bracelet était au bout de son filin. Nous lui attachâmes notre dernière longueur de corde d'escalade. 150 mètres. La glace est toujours là. 180 mètres. De la glace partout. 200 mètres. Toujours de la glace. Nous étions au bout de notre corde et de tous nos espoirs. Je commençais à ramener le bracelet. Bien que mes mains eussent retrouvé leur sens tactile et leur mobilité, mes gestes étaient maladroits et même le bracelet ultra-léger me donnait du fil à retordre tant le courant était fort et la corde alourdie par la gangue de glace qui l'entourait. Une fois de plus, j'essayais en vain d'imaginer l'effort déployé par Abetic pour me ramener. La corde était trop raide pour plier, et nous dûmes faire sauter la glace qui entourait le Persoc avant de le remonter finalement à bord. Bien que le froid décharge plus rapidement mes batteries et que la glace recouvre mes capteurs visuels, Queen a le bracelet, je suis capable et désireux de poursuivre mon exploration. Non merci, répliqua poliment Abetic. Il désactiva la machine et me la donna. Le métal était trop froid pour être touché, même avec la chaussette qui me servait de mitaine. Je laissai tomber le bracelet dans mon paquetage.
Nous n'aurions même plus assez de plastique pour 50 mètres de glace, déclarai-je. Ma voix était d'un calme absolu. Même mes tremblements avaient cessé.
Je compris que c'était à cause de la clarté incisive de la sentence de mort qui venait de nous tomber dessus. Mais il y avait, je m'en rends compte maintenant, une autre raison à cette oasis de calme au milieu du désert de douleur et de désespoir qui nous entourait. C'était la chaleur humaine de mes deux compagnons encore dans ma mémoire, la communion sacrée et mon acceptation de leurs dons. Nous étions dans ces ténèbres glacées trouées par les minces halos de nos lanternes, en train d'essayer de survivre, de discuter de nos choix impossibles, par exemple utiliser le fusil à plasma pour nous frayer un chemin, d'écarter ces options comme irréalisables, puis de revenir dessus. Et pendant tout ce temps, dans le puits noir et gelé de la confusion qui se refermait sur nous, le noyau de chaleur qui m'avait été insufflé par mes compagnons me tenait apaisé, de même que leur contact physique m'avait gardé en vie. Dans les moments difficiles à venir, et même à présent alors que j'écris ces mots, attendant à chaque seconde l'arrivée feutrée de la mort par le cyanure, le souvenir de cette chaleur partagée, de ce don absolu de vitalité élémentaire m'aide à conserver ma sérénité à travers la tempête de mes angoisses humaines. Nous décidâmes de retourner en arrière sur toute la longueur de la galerie récemment percée afin d'essayer de découvrir quelques crevasses ou cheminées naturelles que nous n'aurions pas remarquées en descendant le courant. La démarche semblait sans espoir, mais c'était toujours mieux que de rester ainsi coincé dans une impasse de glace. Nous trouvâmes ce que nous cherchions juste avant l'endroit où la rivière formait son coude. De toute évidence, nous étions tous trop occupés à éviter les parois et à rester au centre du courant pour avoir remarqué, à l'aller, l'étroite fissure dans la glace du côté tribord. Et malgré toute notre attention, nous ne l'aurions pas remarqué non plus en remontant le courant s'il n'y avait pas eu le faisceau étroit de notre torche laser. La lueur de la lanterne, réfléchie par les facettes de cristal et les stalactites, passait dessus sans rien déceler. Le sens commun nous disait encore qu'il s'agissait d'un simple repli de la glace, l'équivalent horizontal des crevasses verticales que j'avais remarquées dans la voûte, une simple poche d'air qui ne débouchait sur rien du tout. Mais notre soif d'espoir nous faisait prier pour que le sens commun fasse erreur. La faille, ou le repli, avait moins d'un mètre de large. Elle s'ouvrait à près de 2 mètres au-dessus de la surface de l'eau. Quand nous fûmes dessous avec le radeau, la torche laser nous montra que l'ouverture se refermait ou faisait un coude 3 mètres plus haut. Le sens commun, une fois de plus, nous disait que c'était un cul-de-sac. Mais nous ignorâmes résolument ce qu'il nous suggérait. Pendant qu'Aîné pesait de tout son poids sur la perche pour empêcher le radeau d'être entraîné, Abétik me hissa sur ses épaules. J'utilisais le bout fourchu de notre marteau comme piolet, en le plantant solidement dans la glace, mu par l'énergie du désespoir. Une fois là-haut, calé par les coudes et par les genoux, je repris haleine. J'étais encore faible. Je fis signe aux autres, qui me regardaient avec angoisse, attendant mon verdict. Le coude de la faille débouchait sur une sorte de galerie qui partait sur la droite. Je l'illuminais, plein d'espoir, avec la torche laser. Une nouvelle paroi de glace réfléchit le rayon de lumière, mais cela ne ressemblait pas cette fois-ci à un coude. Ou plutôt, en m'avançant dans cette seconde galerie à 4 pattes parce que la voûte était de plus en plus basse, je m'aperçus que le boyau s'élevait progressivement à partir de là. Le rayon de ma torche n'avait été arrêté que par la pente glacée. Il était difficile ici d'avoir le sens des perspectives. Je parcourus à 4 pattes une 10aine de mètres. Mes chaussures raclaient la glace. Je songeais à la boutique de la Nouvelle Jérusalem où je les avais achetées, laissant en échange sur le comptoir mes pantoufles d'hôpital et quelques menus monnaies d'Hyperion, et j'essayais de me rappeler s'il y avait des crampons à glace au rayon escalade. Mais c'était un peu trop tard à présent. À un endroit, il me fallut carrément ramper sur le ventre. J'étais sûr, là encore, que la galerie allait se terminer en impasse 1 ou 2 mètres plus loin, mais elle faisait un nouveau coude sur la gauche et continuait tout droit et horizontalement sur 20aine de mètres avant de tourner à droite et de se remettre à grimper. Haletant, tremblant d'excitation, je fis volte-face, courus, glissais et utilisais mon marteau piolet pour redescendre jusqu'à la crevasse de la caverne. Le rayon de la torche laser me renvoyait d'innombrables reflets de mon visage sur la glace limpide. Aîné et Abétik avaient commencé à emballer l'équipement nécessaire dès que j'avais disparu de leur vue. L'androïde avait déjà hissé la fillette jusqu'à la niche de glace et elle empilait le matériel que lui lançait Abétik. Nous échangeâmes des instructions et des suggestions. Tout nous semblait indispensable. Les sacs de couchage, la couverture isotherme, la tente, qui ne pouvait plus être réduite qu'à 3 fois sa taille compressée initiale à cause de la couche de givre et de glace qui la recouvrait, le cube de chauffage, les vivres, le compas inertiel, les armes et les lampes. Finalement, presque tout le contenu du radeau se retrouva à l'entrée de la faille. Nous discutâmes encore quelques instants, histoire de nous réchauffer et de dégeler nos mâchoires, puis nous sélectionnâmes le strict nécessaire qui pouvait se loger dans nos poches et nos paquetages. Je passai le pistolet à ma ceinture et sanglai le fusil à plasma à mon volumineux paquetage. Abétik accepta de prendre la carabine et ses munitions sur son sac à dos déjà rempli à craquer. Encore heureux que nous n'ayons pas de vêtements dans nos sacs, nous portions tout sur nous. Nous les avions donc bourrés de matériel et de rations alimentaires. Aîné et l'androïde avaient gardé leurs unités com, et je glissais le persoc encore glacé à mon poignet. Malgré toutes nos précautions, il était toujours possible que l'un de nous se perde, et il nous resterait dans ce cas ce moyen de communiquer. Je m'inquiétais au sujet du radeau. J'avais peur qu'il ne parte à la dérive. La perche et la godille cassée que nous avions coincées dans l'eau n'allaient pas résister longtemps au courant. Abétique résolut le problème en un instant, en improvisant des amarres à l'avant et à l'arrière, puis en creusant des cavités dans la glace avec le laser afin d'y fixer de solides pitons où il les attacha. Avant de nous engager dans l'étroite galerie de glace, je jetai un dernier coup d'œil à notre fidèle radeau. Je ne m'attendais pas beaucoup à le revoir un jour. Il offrait un spectacle pathétique avec son foyer de pierre toujours en place. La godille était en morceaux, le mât de la lanterne à l'avant était cassé, les bords étaient arrachés des deux côtés, l'arrière prenait l'eau et le radeau tout entier était couvert d'une gangue de glace et entouré de lourdes vapeurs tourbillonnantes. Après avoir exprimé muettement ma gratitude à cette triste épave, je me tournai vers la galerie et m'y enfonçai le premier, en poussant mon lourd paquetage devant moi sur la glace lorsque le passage était trop étroit. Je craignais que le tunnel ne prenne fin quelques mètres après l'endroit où j'avais interrompu mon exploration, mais il continua de grimper, de tourner et de grimper encore durant une trentaine de minutes. Peut-être l'effort physique contribua-t-il à nous maintenir en vie, sinon au chaud. Nous sentions le froid nous gagner progressivement. Tôt ou tard, nous serions obligés de nous arrêter, épuisés, pour étaler nos sacs de couchage sur la glace et nous endormir, avec très peu de chances de nous réveiller par des températures si basses. Mais nous n'en étions pas encore là. Je passai des barres de chocolat à mes deux compagnons et m'arrêtai un instant pour dégeler l'eau de l'une de nos gourdes avec mon laser tout en disant « Il n'y en a plus pour longtemps.
Pour arriver où ?»
demanda Aîné derrière les stalactites qui pendaient au bord de son chapeau.
« Il est impossible que nous soyons près de la surface. Nous n'avons pas grimpé suffisamment. »
« Pour arriver à quelque chose d'intéressant, » répliquai-je.
Dès que j'avais commencé à parler, mon haleine s'était condensée en un nuage de vapeur qui se déposait en givre sur ma veste et sur ma barbe de plusieurs jours. Je savais que mes sourcils laissaient également couler de la glace.
« Intéressant, »
répéta la fillette d'une voix sceptique. Je la comprenais. Jusqu'à présent, tous les événements intéressants qui s'étaient produits avaient failli causer notre mort. Une heure plus tard, après nous être arrêtés un peu pour faire chauffer de la nourriture sur le cube, qu'il avait fallu amarrer solidement pour que sa chaleur ne le fasse pas passer à travers la glace pendant qu'il cuisait le contenu de notre gamelle, je consultais notre compas inertiel pour avoir une idée de la distance que nous avions parcourue et de l'altitude à laquelle nous nous trouvions par rapport à la rivière. Mais soudain, Abétique murmura « Écoutez !» Nous retînmes tous les trois notre respiration durant une bonne minute. Puis Aîné chuchota
« Qu'est-ce que c'est ? Je n'entends rien. »
C'était déjà un miracle si nous nous entendions crier avec toutes les épaisseurs de tissu et autres cagoules improvisées qui nous protégeaient les oreilles. Mais Abétique plissa le front et porta un doigt à ses lèvres pour nous intimer le silence. Au bout d'un moment, il murmura. « Ce sont des pas. Et ils se dirigent de notre côté. » Chapitre 39. Sur Passem, le centre d'interrogatoire principal du Saint-Office romain de l'Inquisition universelle, ne se trouve pas au Vatican proprement dit, mais dans ce gros tas de pierres que l'on appelle le château Saint-Ange. C'est une forteresse massive et circulaire, bâtie à l'origine pour servir de tombeau à Hadrien en 135 après Jésus-Christ, et reliée au mur d'Aurélien en l'an 271 pour devenir l'une des plus importantes citadelles de Rome et l'un des rares bâtiments à être entièrement transporté lorsque l'Église évacua l'ancienne terre, quelques jours avant sa disparition dans le trou noir avaleur de planètes. La citadelle, en fait un monolithe de forme conique, tout en pierre et entouré d'une douve, prit une grande importance pour l'Église durant l'année de la peste 587, où Grégoire le Grand, à la tête d'une procession priant Dieu de mettre fin au fléau, eut une vision de l'archange Michel se tenant au sommet du tombeau. Plus tard, le château Saint-Ange protégea des papes de la vindicte populaire, prêta ses cachots humides et ses chambres de torture à des ennemis désignés de l'Église, comme Benvenuto Cellini, et, en près de 3000 ans d'existence, s'avéra insensible aux invasions barbares aussi bien qu'aux explosions nucléaires. Le château se dresse aujourd'hui sous la forme d'une petite montagne de pierre grise au centre du seul espace découvert qui reste intact dans le triangle grouillant d'activité des voies d'accès, bâtiments et bureaux répartis entre le Vatican, la cité administrative de la Pax et le port spatial. le père capitaine de Soya se présente 20 minutes avant l'heure de son rendez-vous de 7h30. On lui donne un badge qui le guidera à travers les galeries voûtées, suintantes et sans fenêtres du château. Les fresques, le mobilier somptueux et les vastes loggias établis par les papes du Moyen-Âge ont disparu ou sont tombés en ruine depuis longtemps. Le château Saint-Ange a repris son caractère de tombeau et de forteresse. De Soya sait qu'il existe un passage fortifié entre la citadelle et le Vatican, amené lui aussi de l'ancienne terre, et que l'un des objectifs du Saint-Office, au cours des 2 siècles précédents, a été de fournir à Saint-Ange des armes et des dispositifs de défense modernes, afin qu'il puisse éventuellement servir encore de refuge rapide au pape en cas de guerre interstellaire. Le parcours lui prend la totalité de ses 20 minutes d'avance. Il doit se soumettre à plusieurs contrôles et franchir plusieurs portes de sécurité, surveillées non pas par les gardes suisses du Vatican en uniforme voyant, mais par les forces de sécurité du Saint-Office en costume noir et argent. La cellule d'interrogatoire proprement dite est infiniment moins sinistre que les corridors et escaliers anciens qui y accèdent. 2 des 3 murs de pierre intérieure sont rehaussés de panneaux en verre intelligent qui laissent filtrer une lumière jaunâtre. 2 groupes solaires diffusent la clarté du jour par l'intermédiaire de leur collecteur sur le toit, 30 mètres plus haut. La cellule spartiate est meublée d'une table moderne de conférence. Le fauteuil de Soya fait face à ceux de ses 5 inquisiteurs, mais il leur est identique par sa forme et son confort. Contre un mur, il y a un secrétariat standard équipé de claviers, de moniteurs, de lecteurs de disques et d'entrées virtuelles. Un peu plus loin, un buffet offre sa machine à café et ses petits pains briochés. De Soya n'attend qu'une minute l'arrivée des inquisiteurs. Les cardinaux, un jésuite, un dominicain et 3 légionnaires du Christ, se présentent et lui serrent la main l'un après l'autre. De Soya a revêtu son uniforme noir de la Pax avec son col romain, et il offre un contraste profond avec la pourpre des tuniques du Saint-Office, au col bordé de noir. Quelques amabilités sont échangées. Ils discutent un moment de la santé de Soya et du succès de sa résurrection. Il lui offre du café et des petits pains. De Soya accepte un peu de café, puis tout le monde s'assoit. Dans la tradition des premiers jours du Saint-Office, et selon la coutume conservée par la Nouvelle Église, lorsqu'un prêtre est soumis à une enquête, la discussion se fait en latin. En réalité, un seul des 4 cardinaux de l'Assemblée s'exprime au nom des autres. Ces questions sont polies, formelles et invariablement formulées à la 3e personne. À la fin de l'interrogatoire, des transcriptions en latin et en anglais du Retz sont remises à l'intéressé. Le père capitaine de Soya a-t-il réussi à trouver et à détenir la fillette connue sous le nom d'aînée? J'ai pu établir le contact avec l'enfant, mais je n'ai pas réussi à la garder prisonnière. L'intéressé peut-il nous préciser le sens du mot « contact » dans le présent contexte? À 2 reprises, j'ai intercepté le vaisseau qui l'éloignait d'Hyperion. La première fois dans le système de Parvati et la seconde au voisinage du vecteur Renaissance. Ces tentatives infructueuses de capturer l'enfant ont été dûment enregistrées et figurent dans le dossier. L'intéressé soutient-il que la fillette se serait vraiment donné la mort dans le système de Parvati avant que les gardes suisses d'élite qui se trouvaient à bord du Raphaël n'aient pu pénétrer de force dans son vaisseau pour la protéger? J'en avais la conviction à l'époque. Je pensais que le risque était trop important. À la connaissance de l'intéressé, était-ce aussi l'avis du garde suisse le plus haut en grade qui avait la charge de l'opération d'abordage? Partageait-il le point de vue du père capitaine selon lequel l'opération devait être décommandée? J'ignore ce que pensait le sergent Grégorius après l'annulation de l'opération. Sur le moment, il voulait y aller. L'intéressé connaît-il l'opinion des 2 autres troupiers engagés dans l'opération? Sur le moment, ils voulaient tous y aller. Ils s'étaient entraînés longuement et ils se sentaient prêts. Mais je pensais pour ma part qu'il y avait trop de risques que l'enfant mette ses menaces à exécution. Est-ce pour la même raison que l'intéressé n'a pas intercepté le vaisseau fugitif avant son entrée dans l'atmosphère du monde connu sous le nom de Vecteur Renaissance? Non, La fillette avait déclaré en l'occurrence qu'elle allait se poser à la surface. Il semblait plus raisonnable et moins dangereux pour tout le monde de la laisser faire avant de tenter de la capturer. Et pourtant, lorsque le vaisseau en question s'est approché du portail d'Istran en sommeil sur le vecteur Renaissance, le prêtre capitaine a donné l'ordre à plusieurs vaisseaux de la flotte et des différentes forces aériennes de faire feu sur lui. Est-ce bien exact? C'est exact. L'intéressé soutient donc que son ordre ne mettait pas la vie de l'enfant en danger.
Pas du tout. Je savais qu'il y avait un risque. Cependant, lorsque j'ai compris que l'enfant se dirigeait vers le portail d'Istrans, j'ai acquis la conviction intime que nous allions la perdre à jamais si je n'essayais pas d'immobiliser son vaisseau.
L'intéressé savait-il que le portail d'Istrans s'activerait après bientôt 3 siècles de sommeil?
Ce n'est pas par connaissance, mais par intuition que j'ai agi. En catastrophe.
L'intéressé a-t-il l'habitude de jouer la réussite ou l'échec d'une mission, qualifiée de hautement prioritaire par le Saint-Père lui-même, sur l'impulsion d'une simple intuition?
Je n'ai pas l'habitude de me voir confier des missions hautement prioritaires par le Saint-Père. Mais dans certaines circonstances, en situation de combat spatial notamment, il m'est arrivé d'agir sur la base d'intuitions qui pouvaient ne pas paraître totalement logiques à un observateur situé en dehors du contexte de mon expérience et de ma formation.
L'intéressé veut-il dire que le fait de savoir qu'un relais d'Istrans allait reprendre son activité 274 ans après la chute du Retz fait partie du contexte de son expérience et de sa formation?
Non, ce n'était qu'une inspiration de dernière minute.
Se rend-il compte du coût des opérations combinées de la flotte dans le système Renaissance?
Je sais qu'il a été considérable.
Sait-il que plusieurs vaisseaux de ligne ont été retardés dans l'exécution de leurs ordres du haut commandement de la Pax, alors que ces ordres les dépêchaient dans des secteurs vitaux pour la défense de ce qu'il est convenu d'appeler le Grand Mur contre les envahisseurs extro?
Je savais que des vaisseaux étaient retardés sur mes ordres dans le système Renaissance, oui.
Sur la planète de Mare Infinitus, le père capitaine a jugé bon de mettre plusieurs officiers de la Pax aux arrêts.
C'est exact.
Inquisiteur. Et de leur administrer du divray et autres drogues psychotropes réglementées hors du contrôle de la Pax et des autorités ecclésiastiques de Mare Infinitus. Soutient-il également que le disque papal qui lui a été remis pour faciliter sa mission et l'aider à retrouver cette fillette l'autorisait à arrêter des officiers de la Pax et à les interroger de cette manière sans passer par les tribunaux militaires légaux et sans permettre aux accusés de se faire assister par leurs avocats?
Oui. J'avais cru, et je crois toujours, que ce disque me conférait et me confère encore toute l'autorité légale nécessaire pour prendre les décisions de mon choix dans le cadre de ma mission.
L'intéressé soutient donc que l'arrestation de ces officiers de la Pax conduira à la capture et à la détention de la fillette nommée aînée.
Ces investigations étaient nécessaires pour déterminer le degré de réalité des événements entourant le passage probable de l'enfant d'un relais d'Istrans à l'autre sur Mare Infinitus. Au cours de cette investigation, il est apparu que le directeur de la plateforme sur laquelle les événements en question s'étaient déroulés avait menti à ses supérieurs et dissimulé certains détails des incidents concernant le compagnon de voyage de la fillette. Il avait également passé avec les braconniers locaux des accords qui constituent des actes de trahison. À l'issue de notre enquête, j'ai remis les officiers et les hommes impliqués dans cette affaire aux autorités de la Pax pour qu'ils soient jugés selon le code de la justice militaire de la flotte.
L'intéressé a-t-il eu le sentiment que la manière dont il a traité l'évêque Melandriano était également justifiée par les exigences de son enquête?
En dépit des explications qui lui ont été fournies sur la nécessité d'une très prompte action, l'évêque Melandriano a protesté contre notre enquête sur la station Militorale 326
Il a essayé, même à distance, de nous mettre des bâtons dans les roues, malgré les ordres de coopérer de son supérieur direct, l'archevêquesse Jane Kelly. Le père capitaine soutient-il que l'archevêquesse Kelly lui a offert son aide pour solliciter la coopération de l'évêque Melandriano? Non. C'est moi qui lui ai demandé de m'aider. En vérité, le père capitaine n'a-t-il pas plutôt invoqué l'autorité de son disque papal pour contraindre l'archevêquesse à faciliter son enquête?
C'est ce qui s'est passé, oui.
Peut-il nous rappeler les événements qui se sont produits après l'arrivée de l'évêque Melandriano en personne sur la station Militorale 326?
Il était furieux. Il a ordonné aux troupes de la Pax qui gardaient mes prisonniers.
Quand le père capitaine se réfère à « ses prisonniers », il veut parler de l'ex-directeur et des officiers de la station?
Oui.
Il peut poursuivre.
L'évêque Melandriano a ordonné aux troupes de la Pax que j'avais fait venir de relâcher le capitaine Paul et les autres. L'évêque refusait de reconnaître l'autorité qui m'était déléguée par le disque papal. Je l'ai fait mettre temporairement aux arrêts et transféré au monastère jésuite d'une plateforme située à 600 km du pôle sud de la planète. En raison du mauvais temps et d'autres contingences, il n'a pas pu quitter la station durant plusieurs jours. À son départ, mon enquête était terminée.
Et quels en ont été les résultats?
Entre autres choses, il a été établi que l'évêque Melandriano avait empoché d'importantes sommes en liquide que lui ont remises les braconniers opérant sur le territoire soumis à la juridiction de la station Militorale 326. Il a été également prouvé que le directeur Paul agissait sous couvert de l'évêque Melandriano lorsqu'il s'entendait avec les braconniers sur leurs activités illégales et qu'il extorquait de l'argent aux pêcheurs d'outre-monde.
Le père capitaine a-t-il fait part de ses accusations à l'évêque Melandriano?
Non.
A-t-il porté ces faits à la connaissance de l'archevêquesse Kelly?
Non.
Ou au commandant de la garnison de la Pax?
Non.
Peut-il expliquer pourquoi il n'a pas pris les mesures prévues par le code d'éthique de la flotte et par les réglementations en vigueur dans l'Église et la Compagnie de Jésus?
L'implication de l'évêque dans ces illégalités ne faisait pas partie du champ de mon investigation. J'ai remis le capitaine Paul et les autres au commandant de la garnison parce que je savais qu'ils seraient jugés de manière prompte et équitable, conformément au code de justice militaire de la flotte. Je savais également que toutes les plaintes déposées contre l'évêque Melandriano, soit dans le cadre civil des procédures de la Pax, soit dans celui de la hiérarchie de l'Église, nécessiteraient ma présence sur Mare Infinitus durant des semaines et des mois. Ma mission ne pouvait attendre. J'ai estimé que la corruption de l'évêque était beaucoup moins importante que la poursuite de la fillette.
Le père capitaine mesure bien le sérieux des accusations non corroborées et non prouvées qu'il porte à l'encontre d'un évêque de l'Église catholique romaine?
Oui.
Et peut-on savoir ce qui l'a conduit à abandonner son plan de recherche initial pour conduire le courrier archange Raphaël dans le système d'Hébron, en territoire extro?
Une intuition, là encore.
Nous aimerions des détails.
J'ignorais où la fillette avait pu se distransporter après le vecteur Renaissance. La logique indiquait que son vaisseau avait dû rester quelque part pendant qu'il continuait sur le Tétis par un autre moyen. Le tapis Hawking peut-être, ou plus probablement un bateau ou un radeau. Certains indices découverts durant l'enquête sur leur fuite avant et pendant la traversée de Mare Infinitus semblaient suggérer une relation avec les extros.
Des détails.
Tout d'abord le vaisseau lui-même. Il était de conception hégémonienne. Un vaisseau interstellaire privé, si l'on peut concevoir une chose pareille. Seuls quelques exemplaires ont existé durant toute l'histoire de l'hégémonie. Celui qui ressemble plus au vaisseau que nous avons intercepté appartenait à un certain consul de l'hégémonie qui a vécu plusieurs décennies avant la chute. Ce consul fut immortalisé plus tard dans les Cantos, un poème épique composé par le pèlerin d'Hyperion Martin Silenus.
Dans les Cantos, le consul raconte comment il a été amené à trahir l'hégémonie au cours de ses missions d'espionnage des extros. Il peut poursuivre. Il y avait d'autres indices. J'ai envoyé le sergent Grégorius sur Hyperion avec un certain nombre de prélèvements destinés aux légistes. Ils ont permis d'identifier l'homme qui semble accompagner l'enfant. C'est un certain Roland Dimion, né sur Hyperion, ex-membre de la garde nationale. Il existe une relation entre le nom d'Endymion et les œuvres du père de la fillette, l'abomination cybride du poète Keats. Ce qui nous ramène, une fois de plus, au Cantos. Qu'ils poursuivent. Il existe encore une autre relation. L'engin volant, saisi après la fuite et la mort probable de Roland Endymion sur Mare Infinitus. Pourquoi l'intéressé parle-t-il de mort probable ? Tous les témoins présents sur la plateforme ont déclaré avoir vu tomber à l'eau le suspect criblé de fléchettes. Le lieutenant Bellius était lui-même tombé à l'eau un peu plus tôt. Pourtant, c'est bien son sang et ses fragments de tissu qui ont été retrouvés sur le tapis Hawking. Seule une petite partie du sang a été identifiée comme ayant la même configuration d'ADN que Roland Dimion. Ma théorie est qu'il a essayé de le repêcher dans la mer ou qu'il s'est fait prendre par surprise d'une manière ou d'une autre, qu'ils se sont battus sur le tapis et que notre suspect, Roland Dimion, a été blessé et est tombé du tapis avant le tir de nos hommes. Je pense que c'est le lieutenant Bellius qui est mort criblé de fléchettes. A-t-il une preuve, autre que les prélèvements de tissu et de sang, qui pourrait aisément venir de Roland Dimion, pour peu qu'il se soit arrêté dans sa fuite pour assassiner le lieutenant Bellius ? Non. Qu'ils poursuivent. L'autre raison qui m'a fait soupçonner une relation avec les extros est le tapis Hawking. Les examens des experts légaux ont démontré qu'il était extrêmement vieux, peut-être suffisamment pour être le fameux tapis utilisé par le navigant Mérine Aspic et Siri sur la planète d'Alliance Maui. Une fois de plus, cela nous ramène au pèlerinage d'Hyperion et au récit des Cantos de Martin Silenus. Il peut continuer. C'est tout. Je pensais que nous pourrions peut-être nous rendre sur Hébron sans nous heurter à un essaim extro. Ils abandonnent souvent les systèmes conquis. De toute évidence, cette fois-ci, mon intuition m'a trahi. Cela a coûté la vie au lancier Etig. J'en suis profondément et sincèrement désolé. Le père capitaine soutient donc que le résultat de son investigation si coûteuse et si embarrassante pour l'évêque Melandriano peut être considéré comme positif uniquement à cause d'un petit nombre d'indices qui semblent établir une relation avec le poème dénommé « Les Cantos », lui-même très vaguement lié aux extros. Dans l'ensemble, oui. Le père capitaine sait-il que les Cantos en question figurent à l'index des livres interdits depuis plus d'un siècle et demi? Oui. Reconnaît-il avoir lu ce livre?
Oui.
Se souvient-il de la peine prévue par la Compagnie de Jésus pour violation volontaire de l'index des livres interdits?
Oui. Le bannissement de la Compagnie.
Se souvient-il de la peine maximale préconisée par les canons de paix et de justice de l'Église pour ceux qui appartiennent au corps du Christ lorsqu'ils ont enfreint délibérément les interdictions énoncées dans l'index des livres interdits?
L'excommunication.
Le père capitaine est consigné dans ses quartiers de la cure des légionnaires du Christ du Vatican, où il est prié de demeurer jusqu'à ce qu'il soit appelé à témoigner de nouveau devant cette assemblée ou toute autre instance qui lui sera indiquée. Par ces mots, nous adjurons, supplions et lions notre frère dans le Christ. De par l'autorité de la Sainte Église catholique, apostolique et romaine, nous te contraignons et t'adjurons ainsi au nom de notre Seigneur Jésus.
Merci, très éminent et révérend Seigneur cardinaux et inquisiteur. J'attendrai votre bon vouloir.
Chapitre 40. Nous passâmes 3 semaines en compagnie des Chichatuks sur le monde gelé de Sol Draconis Septem. Cela nous permit de récupérer avant d'explorer à loisir avec eux les tunnels glacés de leur atmosphère figée. Nous apprîmes quelques mots de leur langage compliqué, rendîmes visite au père Glaucus dans sa cité enchâssée, traquâmes les spectres arctiques et nous fîmes traquer par eux, puis accomplîmes finalement le terrible voyage vers Laval. J'anticipe naturellement. J'ai souvent tendance à le faire, sans doute à cause de la probabilité croissante de respirer du cyanure chaque fois que j'ouvre la bouche. Mais assez tergiversé. Cette histoire prendra fin lorsque la chose arrivera et pas avant. Peu importe que ce soit ici ou là ou ailleurs. Je vous la raconterai comme si je devais vous la dire en entier. Notre premier contact visuel avec les Chichatuk faillit tourner au tragique pour tout le monde. Nous avions éteint nos torches et étions accroupis dans la pesante obscurité glacée de la galerie. Mon fusil au plasma était chargé et prêt à tirer lorsqu'une faible lueur apparut au détour de la courbe suivante. De massives silhouettes, très peu humaines, débouchèrent alors. J'allumai soudain ma lampe, illuminant trois ou quatre bêtes qui formaient un spectacle terrifiant avec leur fourrure blanche et leurs griffes noires de la longueur de ma main, leurs crocs blancs encore plus longs et leurs yeux rouges brillants. Ces créatures se déplaçaient entourées de la brume de leur propre haleine. J'épaulai mon fusil à plasma et plaçai le sélecteur sur feu rapide. « Ne tire pas !» me cria Aîné en m'agrippant le bras. « Ils sont humains !» Son cri n'arrêta pas seulement ma main, mais celle des Chichatuk également. De longs javelots en os étaient sortis des plis des fourrures blanches, et nos torches illuminaient des pointes aiguisées et des bras repliés en arrière pour les lancer. Mais la voix d'Aîné sembla figer le tableau, chaque camp étant à un cheveu d'un terrible déchaînement de violence. Je distinguais alors les pâles visages qui se dissimulaient derrière les visières en crocs de spectre. Ils avaient des figures épatées, au nez aplati, ridées, d'une pâleur d'albinos, mais cependant bien humaines, de même que les petits yeux noirs perçants qui nous regardaient. J'abaissai le rayon de ma torche pour éviter de les éblouir. Les Chichatuk étaient massifs et musclés, parfaitement adaptés à la dure gravité de 1,7 g de sol Draconis Septem, et rendu encore plus lourd et menaçant par les différentes couches de fourrure de spectre qui les enveloppaient. Nous apprîmes plus tard qu'ils ne portaient sur eux que la partie antérieure de l'animal, y compris la tête, de sorte que les griffes noires des spectres leur pendaient au niveau des mains et que leurs crocs leur couvraient le visage comme une herse acérée. Nous apprîmes aussi que les lentilles noires des yeux de spectre, même privées de l'optique et des nerfs complexes qui permettaient aux monstres d'avoir une vision presque normale dans une obscurité quasi totale, fonctionnaient comme des lunettes de vision nocturne rudimentaires. Tout ce que les Chichatuk portaient sur eux ou avec eux provenait des spectres. Leurs javelots en os, leurs lanières de cuir, les boyaux et tendons dont ils se servaient pour différents usages, leurs outres fabriquées à partir des intestins des monstres, leurs vêtements de nuit, leurs tapis, et même les deux objets précieux qu'ils emportaient dans tous leurs déplacements, le brasero en forme de mitre, taillé dans un os de spectre et suspendu à des lanières tressées, qui contenait les braises grâce auxquelles ils pouvaient éclairer leur chemin, et aussi le bol entonnoir plus complexe qui servait à fondre la glace au-dessus du brasero. Beaucoup plus tard, nous apprîmes encore qu'ils paraissaient beaucoup plus massifs qu'ils ne l'étaient en réalité à cause des outres d'eau qu'ils portaient sous leur fourrure, afin que la chaleur de leur corps empêche le liquide de geler. L'affrontement figé dut durer une bonne minute et demie. Puis Aîné fit un pas en avant, imité aussitôt par le Chichatuk dont nous apprîmes plus tard qu'il se nommait Kushiat. Il parla le premier, en un torrent de syllabes claquantes qui ressemblaient à des stalactites de glace s'écrasant au sol.
« Désolée, » fit Aînée, « mais je ne comprends pas. »
Elle se tourna vers nous. Je regardais Abétik. « Vous connaissez ce dialecte ?» L'anglais du Retz était la langue standard depuis tant de siècles qu'il était presque choquant d'entendre des mots sans pouvoir leur attribuer de signification. Même 3 siècles après la chute, d'après les outre-mondiers que j'avais connus sur Hyperion, la plupart des dialectes planétaires et régionaux qui en étaient dérivés demeuraient compréhensibles.
Je regrette, mais il m'est également inconnu, fit Abétik. Achandimion, puis-je vous suggérer le persoc?
Hochant la tête, je sortis le bracelet de mon paquetage. Les Chichatuk suivaient attentivement chacun de mes gestes, échangeant quelques propos entre eux, le regard à l'affût d'une arme. Leurs javelots s'abaissèrent lorsque je portais le bracelet au niveau de mes yeux pour l'activer.
« Prêt à répondre à vos questions ou à exécuter vos ordres ?»
pépia le père Soc couvert de givre. « Écoutez ça !» demandai-je tandis que Kushiat se lançait dans une nouvelle tirade. « Et voyez si vous pouvez nous en donner une traduction. » Le guerrier habillé de peau de spectre arrêta au bout d'un moment le flot de ses syllabes sèches. « Alors ?» demandai-je au père Soc.
« Ce langage ou dialecte ne m'est pas familier, »
fit la voix du vaisseau sortant du bracelet.
« Je connais plusieurs langues de l'ancienne Terre, parmi lesquelles l'anglais pré-rétien, l'allemand, le français, le hollandais, le japonais, laissez tomber, » lui dis-je.
Les Chitchatuks regardaient le bracelet avec de grands yeux, entre leurs crocs de spectre, mais je ne décelais chez eux aucune terreur superstitieuse, simplement de la curiosité.
« Je suggère, » me dit le père Soc, « que vous me laissiez activer durant quelques semaines ou quelques mois pendant que ce langage est parlé, afin que je puisse constituer une base de données à partir de laquelle j'établirai un lexique. Il serait également souhaitable que…
Merci quand même, » déclarai-je en l'éteignant. Aîné fit un nouveau pas vers Kushiat et lui expliqua par geste que nous avions froid et que nous étions fatigués. Elle fit la mimique de manger, puis de tirer une couverture sur nos épaules et de dormir. Kushiat émit un grognement et conféra avec les autres. Il y avait à présent 7 Chitchatuks qui barraient la largeur du tunnel. Nous apprîmes plus tard qu'ils voyageaient toujours, quand ils allaient à la chasse, par nombre premier, de même que lorsqu'ils se déplaçaient en masse. Finalement, après avoir parlé séparément à chacun de ses hommes, Kushiat nous adressa un bref discours, se tourna vers une galerie ascendante et nous fit signe de les suivre. Frissonnant, courbé sous le poids de la gravité de ce monde, plissant les yeux pour essayer d'y voir quelque chose à la lueur ambrée de leurs bras zéros après avoir éteint nos torches pour en économiser les piles, nous étant assurés, enfin, que mon compas inertiel fonctionnait bien et semait ses petites miettes de pain numérique derrière nous dans la galerie, nous suivîmes Kushiat et ses hommes jusqu'au camp Chitchatuk. C'était un peuple généreux. Ils nous donnèrent des fourrures de spectre à porter et d'autres pour nous servir de sacs de couchage. Nous eûmes droit à du bouillon de spectre chauffé sur leurs petits bras zéros, à de l'eau réchauffée au contact de leur corps et surtout à leur confiance. Nous apprîmes très vite qu'ils ne se battaient jamais entre eux. L'idée de tuer un autre humain leur était totalement étrangère. Essentiellement, les Chitchatuks, des indigènes qui avaient appris à s'adapter à la glace depuis près d'un millier d'années, étaient les seuls humains qui avaient survécu à la chute, aux épidémies virales et aux spectres. Ils tiraient des spectres tout ce dont ils avaient besoin pour vivre et constituaient, semblait-il, la seule source de nourriture de ces monstres. Toutes les autres formes de vie, au demeurant marginales, étaient passées en dessous du seuil de survie après la chute et l'abandon de la terraformation. Les deux premiers jours furent passés à dormir, manger et essayer de communiquer. Les Chitchatuks n'avaient pas de village permanent dans la glace. Ils dormaient quelques heures, repliaient leur fourrure et continuaient leur chemin dans le dédale des galeries de glace. Lorsqu'ils faisaient chauffer de la glace pour la fondre, c'était le seul usage de leur braise, car elle n'était pas assez forte pour les réchauffer et ils ne faisaient pas cuire leur viande. Ils suspendaient le récipient en forme de mitre à la voûte de glace à l'aide de 3 tendons, de sorte qu'il ne restait aucune trace au sol après leur passage. Ils étaient 23 dans la tribu, horde ou clan, comme vous voudrez. Au début, il était impossible de dire s'il y avait ou non des femmes parmi eux. Les Chitchatuks semblaient porter leurs robes en tout temps et ne les soulever, afin de ne pas les salir, que pour uriner ou déféquer dans l'une des fissures de la glace. Ce n'est que lorsque nous aperçûmes celle que l'on appelait Chatia en train de s'accoupler avec Kushiat lors de notre troisième période de sommeil, que nous acquîmes la certitude qu'il y avait des représentantes du sexe féminin dans le groupe. Peu à peu, à force de parler et de déambuler avec eux dans les galeries obscures et identiques pendant les 2 jours suivants, nous commençâmes à reconnaître leurs visages et à les associer à des noms. Kushiat, leur chef, était, malgré sa voix sonore, un homme doux, qui souriait souvent, aussi bien avec ses lèvres fines qu'avec ses yeux noirs. Chiaku, son lieutenant, était le plus grand de la horde et portait une robe de spectre avec une traînée de sang en travers, ce qui, nous l'apprîmes plus tard, était une marque d'honneur. Aishakut était du type coléreux. Il nous lançait souvent des regards noirs et gardait ses distances. Je pense que s'il avait été le chef du groupe de chasse lors de notre rencontre, il y aurait eu pas mal de cadavres sur la glace ce jour-là. Kushtu était, pensions-nous, une sorte de chaman dont le travail consistait à tourner autour de la niche de glace ou galerie dans laquelle nous dormions, en murmurant des incantations et en retirant de temps à autre ses gants en cuir de spectre pour presser ses mains nues contre la glace, sans doute, me disais-je, pour chasser les mauvais esprits. Aîné, pour sa part, suggéra en plaisantant qu'il faisait la même chose que nous, qu'il essayait de trouver le moyen de sortir de ce labyrinthe de glace. Chishtiku était le gardien du feu, très fier visiblement de cet honneur. Les braises constituaient pour nous un mystère. Elles continuaient de rougeoyer et de donner de la lumière et de la chaleur durant des jours et des semaines, sans jamais être entretenues ni renouvelées. Nous n'eûmes la solution de l'énigme que le jour où nous rencontrâmes le père Glaucus. Il n'y avait pas d'enfants dans la horde, et il était difficile de donner un âge aux Chitchatu que nous connaissions. Kushiat était visiblement plus âgé que la plupart des autres. Son visage n'était qu'un réseau de rides qui rayonnait à partir de l'arête de son nez large et osseux. Mais nous ne réussîmes jamais à obtenir le moindre renseignement sur l'âge réel des autres. Il reconnaissait en aîné une enfant, ou tout au moins une jeune adulte, et la traitait en conséquence. Les femmes, comme nous pûmes le constater après en avoir identifié trois, jouaient tour à tour le rôle de chasseur et de sentinelle sur un pied d'égalité avec les hommes. S'ils nous demandèrent à l'androïde et à moi de participer au tour de garde pendant les heures de sommeil de la horde, il y avait toujours trois veilleurs armés, ils ne firent jamais appel à aîné pour cette corvée. Mais ils appréciaient visiblement sa compagnie et sa conversation. Les échanges verbaux étaient très limités, mais nous utilisions un ensemble élaboré de signes qui avaient fait leur preuve pour réduire le fossé entre les peuples depuis les temps paléolithiques. Le troisième jour, aîné réussit à leur expliquer que nous voulions qu'ils retournent avec nous jusqu'à la rivière. Au début, ils eurent du mal à comprendre, mais elle leur décrivit, à l'aide des quelques mots qu'elle avait appris, notre aventure sur le radeau et la présence de l'arche figée dans la glace. Ils poussèrent des exclamations. Puis la muraille infranchissable à laquelle nous nous étions heurtés avant de nous engager dans la galerie où nous avions rencontré nos amis les Chitchatuk. Quand elle suggéra qu'ils descendent avec nous jusqu'à la rivière, ils n'hésitèrent pas. Ils pillèrent leur fourrure de nuit, les tassèrent dans leur sac en cuir de spectre et se mirent en route. Pour une fois, c'était moi qui guidais. Le cadran lumineux du compas inertiel nous indiquait la route et nous pûmes retrouver les coudes, les montées et les descentes de nos errances de trois jours. Il faut dire ici que, sans nos montres, toute notion du temps nous aurait quittés dans ces galeries de sol draconiseptem. La lueur inchangée du brasero, son reflet sur les parois de glace, l'obscurité devant et autour de nous, le froid oppressant, les courtes périodes de sommeil alternant avec d'interminables marches dans des couloirs glacés où nous portions le poids de la planète sur les épaules, tout cela se combinait pour détruire en nous le sens du temps. Mais nos montres nous indiquaient que c'est à la fin du troisième jour, après avoir abandonné le radeau, que nous descendîmes le dernier couloir abrupt qui menait à la rivière. Le radeau offrait un triste spectacle avec son mât cassé à l'avant, ses troncs disloqués, sa partie arrière submergée à cause du surcroît de poids de la glace et ses lanternes recouvertes d'une gangue de givre. Il avait, sans notre matériel et sans l'attente, un aspect lugubre et délaissé. Mais les Chitchatuk étaient fascinés. Ils manifestaient plus d'excitation que jamais depuis notre première rencontre. À l'aide de cordes tressées en cuir de spectre, Kushiat et plusieurs autres se laissèrent glisser à bord et examinèrent soigneusement chaque détail. La pierre de notre foyer abandonnée, le métal des lanternes, la cordelette de nylon utilisée pour attacher les troncs, etc. Leur émerveillement était total, et je compris que dans une société où l'unique source de matériaux de construction, de vêtements et d'armes était un animal bien précis et un prédateur rusé par-dessus le marché, ce radeau devait représenter un trésor de matières premières nouvelles. Ils auraient pu essayer de nous tuer sur place pour s'emparer de tous ces trésors, mais les Chitchatuk, comme je l'ai déjà dit, sont un peuple généreux, qui ignore la cupidité et pour qui tous les humains sont des alliés de même que tous les spectres sont des proies et des ennemis. Nous n'avions encore jamais vu de spectre, excepté sous forme de peau que nous portions par-dessus nos vêtements tropicaux, car elles étaient si chaudes et si isolantes, elles pouvaient aisément rivaliser avec notre couverture isotherme, que nous avions rangé presque tous les autres vêtements que nous avions mis au début l'un sur l'autre. Nous étions totalement ignorants de l'agressivité et de la férocité des spectres, mais nous n'allions pas le rester longtemps. Une fois de plus, Aînée leur fit part de son idée de flotter avec le radeau jusqu'à l'arche. Elle décrivit par geste le mur de glace dont elle montra la direction en aval, puis leur fit comprendre que nous voulions continuer jusqu'à la deuxième arche. Cushiat et son groupe s'animèrent et oublièrent le langage des signes pour déverser sur nous un flot de paroles qui ressemblait à une avalanche assourdissante de gravier tombant de la benne d'un camion. Voyant qu'ils n'étaient pas compris, ils palabrèrent entre eux un long moment avec excitation, jusqu'à ce que Cushiat s'avance finalement d'un pas dans notre direction en articulant une courte phrase qu'il répéta plusieurs fois. Nous reconnûmes le mot « glaucus » que nous avions déjà entendu plusieurs fois dans leur discours et dont la sonorité était aussi étrangère à leur langue que nos mots d'anglais. Lorsque finalement Cushiat nous fit signe de remonter vers la surface, nous acceptâmes tous avec plaisir. C'est ainsi que, emmitouflés dans nos fourrures de spectre, nos lourds paquetages sur le dos, courbés sous la gravité accablante de la planète, glissant sur de la glace dure comme le roc, nous prîmes le chemin de la cité enchâssée pour aller voir le prêtre.